Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. C'est un petit pays misérable que l'on aurait tort de résumer à une bande dessinée de l'horreur. Un régime paranoïaque sous la botte d'un dictateur de 33 ans qui n'a pas retenu grand-chose apparemment de son éducation suisse. Une puissance nucléaire qui renforce méthodiquement ses capacités malgré des sanctions internationales qui se durcissent. Un état voyou qui nargue les grandes puissances puisqu'au-delà de leur rivalité, Pékin et Washington échouent depuis des années à contenir ses ambitions. La Corée du Nord est aujourd'hui sur la carte d'un monde interconnecté, un trou noir, un mystère, mais aussi une menace puisqu'à en croire sa propagande ou son système d'information, ses missiles peuvent désormais frapper l'Europe comme les États-Unis. Que sait-on de la situation à Pyongyang? Des intentions de Kim Jong-un, le troisième de la dynastie, a-t-il une stratégie pour son pays ou a-t-on affaire à un irresponsable capricieux? Comment réagit-on à Tokyo, à Séoul, tout proche? Qui peut aujourd'hui influencer, contenir Kim Jong-un? C'est ce que nous allons tentez de comprendre grâce à vous, Bruno Tertrais, bonjour. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Antoine Bondaz, docteur associé à Sciences Po, coordinateur du programme Corée à l'Asia Center. Et vous avez été à Pyongyang il y a à peu près un an, je crois, au téléphone. Et je l'en remercie puisqu'elle est à Tokyo. Valérie Niquet, bonjour. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et au téléphone aussi avec nous, le grand spécialiste du monde communiste, Pierre Rigoulot, directeur de l'Institut d'Histoire Sociale. Bruno Tertrais, je commence avec vous pour que vous nous expliquiez la panoplie nord-coréenne. En quoi consiste-t-elle aujourd'hui, aussi bien sur le plan de l'arsenal nucléaire que sur le plan des missiles, et en particulier des missiles intercontinentaux?
Oui, mais peut-être aurait-il fallu commencer par sa panoplie militaire tout court, parce que c'est avant tout un pays qui est extrêmement militarisé, qui a du point de vue du nombre une des armées les plus importantes de la région, qui n'a aucune, mais alors absolument aucune inhibition dès lors qu'il s'agit de développer tout moyen, même des armes chimiques, peut-être des armes biologiques, mais en tout cas, c'est un pays qui n'a aucun tabou sur le plan militaire.
Donc 28,5% de son budget, oui, va même si aux dépenses militaires.
C'est un calcul qui n'est pas le même type de calcul que l'on peut faire dès lors qu'il s'agit de la Grande-Bretagne ou de l'Italie.
Hein. Oui, mais en tout cas, cela
fait partie de son idéologie. Hein. Le militaire d'abord. Vous avez raison de mentionner bien sûr les missiles et le nucléaire parce que c'est d'abord un des pays qui a en dehors des grandes puissances, c'est sans doute le pays qui a la famille de missiles balistiques les plus diversifiés au monde. C'est un pays qui surtout les exporte un peu partout, hein, en Asie, mais aussi au Moyen-Orient. Et c'est un pays qui va finir par arriver à cette espèce de Graal qu'il cherche depuis longtemps, c'est-à-dire à arriver à avoir une arme nucléaire qui peut être mise sur un missile à portée intercontinentale, c'est-à-dire qui peut menacer théoriquement tant l'Europe que les États-Unis. Ils n'y sont pas encore tout à fait, mais ils y seront très probablement bientôt.
Je crois que c'est le seul pays au monde qui a avoir inscrit dans le préambule de sa constitution un état nucléaire.
Oui, c'est intéressant parce que ça pourrait rappeler à certains, j'ai entendu cette plaisanterie il y a peu de temps, ça pourrait rappeler la France. Alors évidemment, quoi de commun entre la Corée du Nord et la France, sauf le fait que, parce que la France a dans sa culture dans la 5e République quelque chose d'une relation très forte entre le chef de l'État et l'arme nucléaire, mais c'est vrai que la Corée du Nord a eu cette idée qui montre, à mon sens, l'irréversibilité, en tout cas c'est le signal qu'elle adresse. Elle inscrit dans sa constitution quelque chose que l'on savait déjà, mais qu'il est intéressant de voir constitutionnaliser ainsi, à savoir que cela fait partie maintenant de l'identité politique et stratégique du régime, et que donc c'est une manière de dire, à mon sens, nous ne nous n'abandonnerons jamais l'arme nucléaire.
Comment expliquer qu'un pays qui certes dispose de beaucoup d'uranium en termes de ressources naturelles, mais est néanmoins un pays très pauvre, comment expliquer cette capacité à investir strate après strate, en quelque sorte, d'abord avec l'aide de l'Union soviétique, ensuite en débauchant, si j'ai bien compris, des experts ex-soviétiques, avec l'aide sans doute aussi du Pakistan. Mais à chaque fois, on a l'impression que des paliers ont été franchis assez rapidement, avec un niveau d'expertise quand même stupéfiant.
Assez rapidement, je ne sais pas, mais en tout cas, parce que justement, la clé, c'est qu'ils ont mis du temps. Et lorsqu'on a du temps et des moyens et pas d'obstacles politiques ou juridiques ou sociaux pour un programme de ce type, on finit par y arriver. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il ne s'était agi pour lui que de faire des formules de missiles et des formules d'armes nucléaires relativement simples, pas très perfectionnées, ben, il finissent effectivement par y arriver, y compris parce qu'ils ont bénéficié directement ou indirectement d'aides extérieures. Mais je crois que le principal, c'est que c'est l'effort patient, c'est un effort de 40 ans, c'est un effort patient qui aujourd'hui donne ses fruits, tout simplement.
Premier essai nucléaire en 2006.
Oui, les essais nucléaires nord-coréens ont ceci de particulier que, alors d'abord, on ne connaît pas tout, par exemple, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour le dernier, parce qu'il était tellement profond que les sismographes du monde n'ont pas pu exactement sentir ce qui se passait. Et surtout, les détecteurs de gaz rares, c'est-à-dire, en gros, ce qui s'échappe des cavités où on fait des essais et que l'on peut repérer à très grande distance, ne se sont pas échappés, parce qu'ils ont pu creuser leur puits tellement profond qu'on n'a rien vu. Ce qui est sûr, c'est que ces essais n'ont pas tous été réussis, mais qu'au bout du quatrième, quand même, on peut dire que là, ils maîtrisent des formules d'armes rudimentaires. On n'a pas encore tout à fait de certitude, même si Séoul a annoncé la semaine dernière qu'il pensait que maintenant, il pouvait mettre une arme nucléaire sur un missile à moyenne portée.
Séoul, donc, capitale de la Corée du Sud, directement concernée, 40 kilomètres du 38e parallèle.
Tout à fait. Et donc, je crois que s'ils ne sont pas encore, justement, ce Graal, ce que j'appelais le Graal tout à l'heure, ils en sont tout près.
Alors, il faut quand même rappeler que la Corée du Nord et son programme nucléaire s'inscrit dans une Asie du Sud-Est fortement nucléarisée à l'initiative des États-Unis depuis les années 50. Je crois que c'est en Corée du Sud, à partir de 1958, que les États-Unis ont installé des armes nucléaires. Valérie Niquet, bonjour. Vous êtes à Tokyo. On sait qu'a eu lieu à Hiroshima, il y a quelques jours, un sommet des ministres des Affaires étrangères du G7, donc un lieu hautement symbolique s'il en est, un sommet qui paradoxalement a consacré l'échec de toutes les politiques de non-prolifération et singulièrement dans cette région. Quelle est la perception aujourd'hui au Japon de la menace nord-coréenne? D'abord, est-ce perçu comme une menace?
Alors oui, évidemment, c'est perçu comme une menace, d'autant plus que le Japon est directement dans la portée des missiles intermédiaires dont on parlait tout à l'heure, les fameux missiles Nodong qui, eux, existent et dont les Coréens du Sud disent aujourd'hui que la Corée du Nord pourrait assembler une tête nucléaire à ces missiles à moyenne portée. Donc le Japon est très près, en fait, de la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord est toujours qualifiée par toutes les études japonaises et les positions officielles comme une menace pressante et de plus en plus immédiate. Alors d'abord la menace militaire, mais également, comme vous l'avez indiqué, parce que pour certains Japonais en tout cas, cela signe l'échec en quelque sorte des stratégies de non-prolifération et de tentatives de contrôler la nucléarisation de fait de la Corée du Nord. Où vous aviez parlé dans votre introduction de la Corée du Nord comme un état nucléaire, et c'est justement là le problème, c'est-à-dire que beaucoup se disent aujourd'hui qu'il sera extrêmement difficile de revenir en arrière et d'imposer à la Corée du Nord, si celle-ci existe encore en tout cas, une véritable dénucléarisation qui est l'objectif qui était recherché. Donc pour le Japon, c'est un échec à la fois du système de non-prolifération et des interrogations sur le rôle que les États-Unis peuvent jouer dans ce processus processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne, des interrogations évidemment aussi sur le rôle de la Chine, et c'est une menace très directe qui d'ailleurs sert aussi, justifie, mais avec raison à mon sens, le retour du Japon comme puissance plus normale, entre guillemets, au niveau militaire. C'est-à-dire que le Japon se dote de moyens, notamment d'observation par satellite, depuis déjà plusieurs années, destiné à mieux surveiller ce qui se passe en Corée du Nord, et puis bien entendu des efforts considérables dans le domaine de la défense antimissile en compagnie ou avec leurs alliés américains. Et d'ailleurs aussi un rapprochement récent avec la Corée du Sud. Donc pour le Japon, effectivement, la Corée du Nord est plus qu'un sujet de préoccupation, c'est un véritable sujet d'inquiétude.
Alors, Séoul, on le rappelait, capitale de la Corée du Sud, là c'est encore sur le plan à la fois national, sur le plan culturel et sur le plan géographique, un problème encore plus aigu et plus palpable, sans parler des Nord-Coréens qui fuient par la Chine et, si j'ai bien compris, quand ils arrivent à rejoindre la Corée du Sud, ont un espèce de sas, passent quelques jours ou quelques semaines dans un centre où on les habitue à cette autre Corée.
Alors oui, j'imagine. Alors Antoine Bondas ou Pierre Rigoulot, qui connaissent sans doute mieux que moi la Corée du Sud et la Corée du Nord, pourront mieux en parler. Mais il est certain que la différence de niveau de vie et d'habitude de vie entre une Corée du Nord totalement idéologisée, même si, d'après ce qu'on en sait, il y a tout de même des poches d'évolution, notamment dans Pyongyang, avec l'émergence de marchés libres, soutenu par un système sans doute relativement économique, sans doute extrêmement corrompu, un peu sur le modèle de ce qu'on peut trouver de l'autre côté de la frontière en Chine. Donc il y a des évolutions en Corée du Nord, mais c'est un système évidemment totalement fermé, un régime totalement dictatorial, avec une propagande omniprésente. Donc sans doute, effectivement, lorsqu'on arrive en Corée du Sud, non seulement il y a un sas pour s'habituer, il y a sans doute aussi un sas pour faire le tri entre les vrais défecteurs et ceux qui seraient éventuellement envoyés par le régime nord-coréen. Ce qui est sûr, c'est que la Corée du Sud est évidemment directement sous la menace de la Corée du Nord, ne serait-ce que par la proximité de la capitale avec le 38e parallèle, et sous une menace qui est évidemment balistique nucléaire, mais ça, c'est plus récent, mais surtout une menace qui est fondée, comme le disait Bruno Tertrais, sur la puissance militaire, même si elle est sans doute d'une qualité de plus en plus limitée, conventionnelle, avec des batteries d'artillerie qui seraient prêtes, comme le disent régulièrement les dirigeants nord-coréens, à transformer Séoul en une mer de feu. Donc c'est des menaces qui reviennent régulièrement et qui font que on peut difficilement oublier la menace nord-coréenne, bien qu'on ne sente pas non plus, quand on se promène dans Séoul, une inquiétude très pressante dans la population.
Il reste 28 500 GIs en Corée du Sud, hein. On oublie toujours que la présence militaire américaine depuis les années 1950 reste constante.
Comme au Japon, d'ailleurs, et c'est un enjeu essentiel qui est à la fois de sécurité, mais surtout qui sert aussi à démontrer l'engagement réel des États-Unis dans la région. Certains au Japon, par exemple, vous expliqueront que cette présence militaire importante des États-Unis en Corée du Sud, c'est la même chose. Alors, parler de bouclier humain serait peut-être un peu exagéré, mais enfin, il y a une véritable présence, un véritable intérêt direct donc des États-Unis au travers de cet engagement militaire avec les bases américaines en Corée du Sud et au Japon.
Pierre Rigoulot, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut d'Histoire Sociale, grand spécialiste du monde communiste. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le régime de Pyongyang est en quelque sorte un régime communiste tel qu'il aurait été conservé dans le formol, ou est-ce que c'est quelque chose de plus spécifique?
Oui, c'est vrai qu'on le compare très souvent au au régime stalinien des années 30 et de fait, il y a des points de comparaison faciles. Le pays est fermé, il a une conception tout à fait obsidionale du monde, c'est-à-dire que il se sent ou il se dit entouré d'ennemis, il est armé jusqu'aux dents. Enfin, les différences sont évidentes aussi, ou en tout cas les caractéristiques un peu particulières à la Corée du Nord. On a un culte délirant du dirigeant. Je sais bien que cela existait du temps du maoïsme ou de Staline, mais enfin, là, on va jusqu'à une sorte de connivence de la nature avec la direction des Kim.
Il y a avec une exaltation poétique et une interprétation des phénomènes climatologiques en fonction
météorologique en fonction de l'apparition, de la disparition du numéro 1. Le brouillard qui vient s'envelopper la personne du numéro 1 pour empêcher que les méchants impérialistes américains le perçoivent lorsqu'il s'approche de la zone démilitarisée, par exemple, et le soleil qui revient pour faire une photo avec les soldats. Mais il y a également d'autres différences. Je pensais aux menaces grossières contre les voisins, les menaces terribles. Valérie Nicker appelait cette menace de noyer Séoul dans un océan de flammes. Staline était ce qu'il était, mais il ne procédait pas de cette façon-là.
Il a quand même affamé assez joyeusement l'Ukraine sans doute, mais
avec un discours tentait de justifier positions, les mesures qu'il prenait.
Ce que l'on sait moins, Pierre Rigoulot aussi, c'est que la société coréenne est une société très stratifiée. Il y a des castes.
Oui. Exactement. Alors voilà une autre différence que je voulais souligner, c'est que on peut parler de caste plutôt que de classe, puisque en fonction de des prises de position d'un père voire d'un grand-père, vous êtes situé dans une des grandes catégories, c'est-à-dire parmi les soutiens au régime, les catégories sûres, soit les catégories plus incertaines, et enfin, troisièmement, les ennemis du régime. Et puis, il y a aussi, comme différence avec l'URSS stalinienne, cette dynastie, n'est-ce pas ? Cela, on ne l'a vu, évidemment, dans aucun autre pays communiste.
Et alors, on a l'impression que c'est un système où plus on monte et plus on s'approche du maréchal, donc du leader suprême, plus on risque d'être liquidé purement et simplement. Mais enfin, ça, c'était le propre aussi dans le système stalinien.
Oui, mais il y avait quand même une différence avec le père de l'actuel leader. Les hauts cadres se voyaient offrir de fort belles montres, des automobiles, etc., etc. Il n'y avait pas tant, il y avait des purges parfois, il y avait aussi des défections, mais là les purges et les défections ont pris une proportion beaucoup plus importante. Depuis l'exécution de l'oncle de l'actuel dirigeant, le 12 décembre 2013, il y a une bonne vingtaine de hauts cadres du parti et de l'armée qui ont fait défection. Le nombre de les gens purgés également sont extrêmement nombreux, certainement plus d'une centaine depuis le début de son règne, entre guillemets. Bref, il y a une situation beaucoup plus incertaine pour les cadres actuels du régime de Pyongyang. Une réticence finalement à tenter de grimper dans l'appareil qu'il n'y avait certainement pas. Pas à ce point-là, en tout cas, avec le père de l'actuel dirigeant. Donc une situation autour du pouvoir qui semble inquiétante, difficile, incertaine, et peut-être que ce armement dont nous avons parlé tout à l'heure est aussi une manière de compenser ces menaces sur son pouvoir à l'intérieur même de la Corée du Nord.
Antoine Bondaz, je rappelle que vous êtes docteur associé à Sciences Po, coordinateur du programme Corée à l'Asia Center avec François Godeman. Vous avez été à Pyongyang, je crois, il y a un peu plus d'un an. Donc, le jeune Kim est arrivé au pouvoir, donc à la mort de son père. Donc, il est le troisième dans cette dynastie des Kim. Il est arrivé au pouvoir en décembre 2011. Comment décririez-vous la façon dont il a assis son pouvoir depuis? Pierre Rigoulot rappelait à l'instant les purges. L'oncle, même si je crois que ce n'était jamais qu'un oncle par alliance, il l'a quand même fait trucider, ou trucider lui-même d'ailleurs, en bonne et due forme.
Alors, premièrement, il faut noter les erreurs d'analyse de la majorité des experts américains ou sud-coréens quant à la transition en Corée du Nord. C'est-à-dire qu'en 2009-2010, quand on savait que Kim Jong-il était malade, il avait fait un AVC à l'été 2008, de nombreux experts pensaient que la transition se ferait en faveur d'une direction collégiale et très certainement militaire. Quasiment personne n'avait vu venir Kim Jong-un, qui est apparu en fait au public nord-coréen en septembre 2010 à l'occasion d'une conférence. La transition s'est en réalité bien passée. Elle s'est passée dans le meilleur des scénarios possibles.
Pour lui.
Pour lui, oui. Bien évidemment, pour Kim Jong-un. Kim Jong-un et la transition ont été préparés par son père dès les années 2010 et 2011. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses nominations de proches de Kim Jong-il, qui sont devenus ensuite des proches de Kim Jong-un, pour asseoir son autorité. Kim Jong-un lui-même, avant même la mort de son père, a eu des rôles très importants, notamment au sein du ministère de la Sécurité. Lorsque son père est décédé, donc en décembre 2011, Kim Jong-un s'est appuyé sur les relais que son père avait mis en place, puis progressivement s'en est séparé. De toute façon, c'est, si vous voulez, comme dans une monarchie absolue européenne du 15e ou du 14e siècle, le jeune héritier n'a plus besoin des régents et, pour montrer son autorité au peuple,
il les élimine.
Va progressivement s'en débarrasser. Pour vous donner une image assez concrète, 8 personnes étaient à côté de la voiture qui portait le cercueil de Kim Jong-il en décembre 2011.
Donc du papa.
Exactement. Sur ces 8 personnes, Kim Jong-un était présent et 7 autres membres. 5 ont disparu ou ont été éliminés, dont son oncle Jang Song-taek, et 2 ont des postes en réalité très honorifiques et ont environ 85, entre 85 et 90 ans aujourd'hui. Donc Kim Jong-un s'est progressivement débarrassé de ses relais. Il a rajeuni. Alors, rajeuni en Corée du Nord, c'est toujours un peu paradoxal. On passe d'une moyenne d'âge de 70 ans à 60 ans. Mais c'est un rajeunissement très important des cadres du parti, des cadres de l'armée.
Et alors, comment cherche-t-il à asseoir sa légitimité? Est-ce qu'il a la préoccupation, j'ose pas dire d'une opinion publique qui n'existe pas, mais enfin d'un peuple qui est là et dont on imagine les conditions de vie dramatiques?
Contrairement à son père, Kim Jong-il, qui était assez distant du peuple, qui apparaissait rarement en public, qui faisait très rarement des discours en public, Kim Jong-un, lui, a adopté un style de gouvernance très proche de son grand-père, Kim Il-sung, avec la volonté de se montrer...
Le fondateur, donc.
Exactement. La volonté de se montrer très proche du peuple et à l'écoute de ses besoins. Il a, depuis, mis en place une doctrine, une nouvelle doctrine, qu'on appelle la ligne Pyongjin, qui correspond en réalité au développement conjoint des capacités nucléaires et des capacités de défense, et des capacités économiques. Ce qui est, en quelque sorte, une continuation des travaux de son grand-père et de son père, mais où le fait d'insister sur le bien-être de la population est extrêmement important.
Mais un bien-être très relatif. Enfin, on se souvient des famines atroces, c'était dans les années 94,
90,
voilà. Et donc là, Valérie Niquet faisait allusion tout à l'heure, il y aurait un début d'économie souterraine qui favoriserait l'émergence de ce qu'on pourrait appeler sinon une classe moyenne, en tout cas des gens qui arrivent à s'en sortir un peu mieux.
Ce qu'on appelle les marchés informels en Corée du Nord existent depuis le début des années 2000. Ils ont été autorisés et acceptés par le régime nord-coréen pour tout simplement améliorer le niveau de vie. Entre 2007 et 2009, ces marchés ont été réprimés dans le cadre de la transition afin d'assurer la sécurité au maximum du régime. Aujourd'hui, ces marchés repartent et se développent à nouveau. Cependant, le bien-être et le niveau de vie des Nord-Coréens s'améliorent de façon bien évidemment très relative et très partielle, mais s'améliorent. Nous ne sommes plus dans le cas de famine comme au milieu des années 90. En 2013, la production céréalière, par exemple, avait quasiment doublé par rapport au milieu des années 90. Mais Kim Jong-un, en plus de ses réussites très partielles, encore une fois, sur le plan économique, fait en sorte de s'intéresser au bien-être, en tout cas officiellement de la population, en créant, par exemple, des installations sportives à Pyongyang, en créant des hôpitaux.
Il était question d'un Disneyland aussi, enfin d'un espèce de, d'un parc.
Il y a maintenant à Pyongyang, dans la périphérie de Pyongyang, un parc d'attractions, mais il y a surtout un parc aquatique. Il y a un centre équestre. Il y a de nouvelles cliniques dentaires ou des nouveaux opticiens. Ce qui est important, c'est non pas que la vie des gens change radicalement, mais qu'en tout cas, Kim Jong-un veut s'afficher comme un leader, tout comme son grand-père, qui est proche du peuple, et qui s'intéresse au bien-être du peuple. Et ça, c'est quelque chose que Kim Jong-il ne faisait pas. Le slogan de Kim Jong-il et la doctrine à l'époque de Kim Jong-il était celle du Songun, ce qu'on peut qualifier de priorité à l'armée. Kim Jong-un, lui, très clairement, remet en avant l'importance du développement économique. Ce qui, forcément, d'un point de vue occidental, est paradoxal, puisque plus le pays procédera à des essais nucléaires, plus il sera sanctionné et plus il lui sera difficile d'avoir une véritable croissance économique.
Mais en même temps, cela veut dire que les sanctions, il y a 4 ou 5 fournées de sanctions au fil des années, ces sanctions sont pleines de trous.
Si l'objectif des sanctions était de dénucléariser le pays, elles ont échoué. Si les sanctions avaient pour objectif de montrer l'exemple à la communauté internationale et de dissuader peut-être d'autres pays de suivre le chemin de la Corée du Nord, alors dans ce cas-là, elles ont peut-être réussi. Ce qui est sûr, c'est que la Corée du Nord continue de se développer et les sanctions onusiennes pour l'instant ne sanctionnent pas le commerce nord-coréen. C'est-à-dire que il est légal aujourd'hui pour la Chine de commercer avec la Corée du Nord. Ce qu'il faut rappeler, c'est que jusqu'à il y a quelques semaines, la Corée du Sud était le deuxième partenaire commercial de la Corée du Nord, avec des échanges annuels d'à peu près 2 milliards de dollars.
Ah oui, puis ce fameux parc industriel qui a été fermé.
Le complexe industriel de Kaesong qui a été fermé à la fin du mois de février.
Que sait-on du tempérament du jeune homme? Parce qu'il y a eu toutes sortes de rumeurs sur ses amours, il y avait une ravissante qui tout à coup a disparu, donc on a dit qu'il l'avait fait assassiner ou qu'il en avait en tout cas changé. Enfin ça c'est assez banal. Mais qu'est-ce que l'on sait du tempérament de Kim Jong-un?
Pour être parfaitement honnête, on ne sait rien sur Kim Jong-un. Et donc, je ne me prononcerai pas sur la personnalité de Kim Jong-un. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les rumeurs qui circulent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces rumeurs viennent de Corée du Sud. Pas de Chine, pas des États-Unis, mais de Corée du Sud. Notamment d'anciens dissidents, d'anciens transfuges ou d'associations anti-Corée du Nord. Mais il faut les prendre avec beaucoup de perspective et les relativiser très fortement. Par exemple, le fait que Jang Song-taek, son oncle, ait été donné à manger à des chiens, était une rumeur qui a été relayée partout dans la presse internationale, mais qui n'était qu'une rumeur. Et donc il faut faire...
Donc il n'a pas été donné à manger à des chiens, il a été assassiné, en tout cas.
Il a été officiellement tué suite à un jugement équilibré et juste du point de vue nord-coréen.
Éric Scholl, vous dirigez Courrier International et comme chaque semaine, vous avez été chercher dans la presse occidentale des portraits de ce jeune maréchal qui avait été envoyé par son père en Suisse dans un collège extrêmement chic. Et bon, on sait qu'il aime le cinéma américain, mais c'est à peu près tout, comme le disait Antoine Bourdaz.
Ben oui, ce qui est étonnant, c'est que au fond, on s'aperçoit qu'à un moment où on a des informations sur tout, partout, sur lui, on ne sait quasiment rien. Et 4 ans après son accession au pouvoir, il est toujours aussi difficile de percer les mystères du leader suprême. Alors, le journal britannique The Independent l'a récemment inclus dans un classement des jeunes personnalités les plus puissantes du monde. À cette occasion, le journaliste britannique écrit « Il a l'air tout gentil, mais ne vous y trompez pas, c'est un dictateur à la tête d'un des régimes totalitaires les plus craints de la planète. » Et il enchaîne quand Kim n'est pas sur le point de déclencher une guerre avec la Corée du Sud ou d'exécuter férocement des membres de sa famille, bien c'est qu'il teste des armes nucléaires. Voilà une présentation un peu rapide, mais enfin, qui a le mérite
britannique
de bien résumer le personnage, l'homme qui fait trembler la péninsule coréenne. Pour en savoir un petit peu plus, il faut lire le très long portrait que lui a consacré l'année passée Vanity Fair, avec ce titre très juste, le plus énigmatique et imprévisible des dictateurs. Car c'est vrai, raconte le magazine, il y a énormément de rumeurs, on en parlait à l'instant sur Kim Jong-un. Par exemple, on ne connaît pas son année de naissance, peut-être en 82 ou 83 ou 84.
Mais il y a quand même quelques détails qui...
Alors oui,
précise.
On en a donné déjà quelques-uns. On sait qu'il a fait effectivement des études en Suisse pendant plusieurs années. Vanity Fair nous apprend qu'il parle un anglais et un français correct, qu'il a été un enfant pourri gâté, enfin comme un rejeton de milliardaire en occidental, avec une passion pour les jeux vidéo, pour le basket. On connaît sa passion pour Michael Jordan. Et on sait aussi qu'à son retour en Corée du Nord, il a intégré l'académie militaire de Pyongyang. Puis, on vient de le raconter, il a été placé sur une rampe de lancement pour prendre le pouvoir par son père. On sait enfin qu'il agit aujourd'hui en monarque absolu, au sens d'une monarchie du XVIe ou XVIIe siècle, de droit divin, précise le journaliste de Vanity Fair. Le magazine insiste sur le fait que son rôle de leader suprême réclame une allégeance complète à ce système qui, en dépit de sa cruauté et de ses échecs confirmés, semble fonctionner de façon acceptable pour une partie des Nord-Coréens. Au passage, on apprend que ce jeune dirigeant cultive donc sa ressemblance avec son grand-père, on en parlait, au point qu'il aurait même pris du poids volontairement, le tout pour entretenir une certaine nostalgie en Corée du Nord. Et enfin, raconte Vanity Fair, un des traits donc les plus perturbants du personnage, c'est sa tendance à agir de façon imprévisible, voire bizarre. Et pour cet autocrate à la tête d'un arsenal nucléaire, ce n'est pas évidemment très rassurant.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Bruno Tertrais, pour comprendre l'emprise d'un tel régime sur la population, j'imagine qu'il faut en savoir plus sur la culture en Corée du Nord, qui est très spécifique sur la manière dont le leader est perçu.
Ce n'est pas
le petit père des peuples, c'est la petite mère.
Ça n'est pas Staline, ça n'est pas Louis XIV non plus. Je ne suis pas du tout certain, sous réserve de ce que pourra préciser Antoine Bondaz, que l'expression monarque absolu soit véritablement appropriée. Oui, dans le sens où il y a un sens divin à cette expression, et comme on l'a suggéré tout à l'heure, il y a une inscription dans le divin, mais qui après tout n'est pas propre à la Corée du Nord. Après tout, l'empereur du Japon, lui aussi, est d'essence divine. Donc ce n'est pas Louis XIV, mais ça n'est pas Staline non plus. Et il y a un point que je voudrais ajouter là-dessus, c'est qu'il y a eu une hypothèse, enfin certains exégètes de la culture nord-coréenne le comparent bien volontiers plutôt à une mère qu'à un père. Un régime stalinien, c'est un régime dans lequel la virilité, la figure du père est la figure dominante. Hein.
Le petit père des peuples.
Le petit père des peuples. Et la Corée du Nord, d'une certaine manière, c'est l'inverse. C'est une mère, parce que les Nord-Coréens sont des enfants qu'il faut protéger contre les menaces extérieures. Ce sont les enfants d'une race pure, qui a un sang extrêmement pur. La notion de sang que l'on retrouve effectivement dans la dynastie des dirigeants est importante.
Et d'où vient-elle cette notion de race pure ?
Je crois qu'il y a un héritage là très asiatique sur lequel je m'avancerai un petit peu moins que les experts, que sont Antoine, Valérie ou d'autres. Mais en tout cas, nous ne sommes pas du tout dans une culture politique de type européen. Nous sommes dans une culture très asiatique dans laquelle je suis absolument persuadé, je ne peux pas le prouver, mais je suis absolument persuadé que une partie en tout cas de ceux qui fondent en larmes et qui vont sangloter pendant des jours parce que le dirigeant, le cher dirigeant est mort, je suis persuadé qu'il y a une grande partie de sincérité. Hein, ça ne veut pas dire que tout le monde a le cerveau complètement lavé, mais en tout cas on ne peut pas dire que c'est, comme on le voyait pour certains régimes communistes, entièrement une comédie.
Mais néanmoins, c'est une société qui reste totalement enfermée. Alors on dit que il y a des clés USB maintenant qui entrent, il y a des images, il y a des musiques.
Antoine Bondaz en parlera sûrement mieux que moi, mais en tout cas, il y a un aspect qui est certain, c'est que ce régime est d'autant moins absolu absolu, qu'il y a des gens autour de... Il y a sa famille, il y a des conseillers, il y a l'armée. Voilà, il ne décide pas. C'est pas lui qui peut demain tout seul, à mon avis, appuyer sur le bouton nucléaire. Je ne sais pas exactement comment les procédures se passeraient, mais ça me surprendrait beaucoup. Dernier élément, sur l'imprévisibilité du régime. Deux choses. D'abord, il n'est pas totalement imprévisible. Il y a par exemple des séquences assez classiques sur les missiles et les tirs nucléaires. D'abord un essai de nouveau missile, puis un tir nucléaire. Il y a aussi le fait que la Corée du Nord n'aime pas qu'on ne parle pas d'elle. Et que donc, dès qu'on ne parle plus d'elle, elle se rappelle au bon souvenir de la communauté internationale. Ce qui nous enferme, nous, dans un terrible dilemme. Parce que si on les ignore, eh bien, ils vont se rappeler notre bon souvenir de manière assez déplaisante. Mais si on va négocier avec eux, ils se disent « Ah, très bien, on va en faire ce que l'on veut ». Cela dit, le plus grand danger, à mon sens, de ce régime pour nous, pour le reste du monde, en dehors du fait que c'est d'abord un danger pour le peuple coréen, c'est sa disponibilité à prendre des risques qui n'existaient pas sous son père. Quel que soit le décideur exact, quel soit le dirigeant, on a vu par exemple en 2010 ce régime se livrer à des provocations insensées sur une péninsule qui est juridiquement en guerre depuis 1950. C'est le fait de tirer sur, de couler un bateau sud-coréen, c'est le fait de bombarder des îles certes disputées mais tout de même habitées par les sud-coréens. Donc c'est ça le plus inquiétant et je ne peux pas dire que c'est un pays qui n'emploiera jamais l'arme nucléaire. C'est un pays qui peut, avec sa propre rationalité, parce que c'est un régime tout à fait rationnel, qui a une diplomatie qui pourrait, pourrait donner des exemples à certaines diplomaties européennes. Et malheureusement, c'est un régime qui, prévisible ou pas, en tout cas, peut prendre des vrais risques et conduire, volens nolens, à un conflit sur la péninsule.
Antoine Bondaz, il va y avoir une échéance importante quant à l'évolution de ce régime. Le congrès du parti, la date reste floue, mais c'est dans quelques semaines, a priori en mai. Ce serait le premier congrès du parti depuis 1980. Qu'est-ce que cela veut dire de la part du dirigeant suprême ?
Alors tout d'abord, le congrès, ce sera donc le 7e congrès du Parti des travailleurs coréens, le premier congrès depuis 1980, donc son père Kim Jong-il n'en avait pas organisé, c'était uniquement son grand-père, Kim Il-sung. Ce congrès est l'organe le plus important pour le régime nord-coréen, puisqu'il rassemble au final tous les députés et tous les représentants du Parti des travailleurs.
Qui sont nommés, enfin qui sont sélectionnés.
Qui sont officiellement élus, sont officiellement élus par le peuple nord-coréen. Il y a quelques jours, on a appris que Kim Jong-un avait été élu représentant officiel de l'armée au sein de ce congrès, ce qui montre sa primauté au sein de l'armée. Le congrès est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il normalise l'exercice du pouvoir nord-coréen. Et encore une fois, le parallèle avec son grand-père est clairement établi. Deuxièmement, l'objectif est de replacer le Parti des travailleurs de Corée au cœur de l'équation politique nord-coréenne. Son père, comme j'en ai parlé tout à l'heure, avait fait de l'armée la priorité absolue et le développement des capacités nucléaires et balistiques la priorité absolue du régime. Kim Jong-un, lui, tout en maintenant cette priorité militaire, a d'autres priorités, notamment des priorités économiques. Et pour cela, l'importance du parti doit redevenir centrale. Donc il est fort à parier au mois de mai qu'au cours de ce congrès, l'autorité de Kim Jong-un, bien évidemment, soit encore une fois affirmée, mais que surtout le parti redevienne le cœur de la vie politique nord-coréenne.
Et tout cela s'accompagnant, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, d'un encouragement tacite à une forme de non pas d'ouverture économique, mais en tout cas, oui, des encouragements à une forme de prospérité. Enfin, on a du mal à employer ce mot-là, mais...
C'est d'une certaine façon tout le paradoxe et le dilemme aujourd'hui des dirigeants nord-coréens.
Mais on a vu cette histoire insensée, l'histoire du Courchevel nord-coréen, c'est-à-dire qu'on a vu des remontées mécaniques qui avaient été rachetées d'occasion dans une station française et qui, on imagine par des intermédiaires chinois, ils sont maintenant, ils équipent maintenant une station de ski en Corée du Nord.
Alors le complexe de Masik a été fondé en 2013 Et il vise au final à satisfaire l'élite qui pourra désormais aller skier sans avoir à aller en Chine, mais surtout également à vouloir développer ce qu'on appelle un tourisme sportif. C'est également pour ça qu'en 2014, on a eu l'organisation
ça va être du dernier chic, ça, aller skier en Corée du Nord. Il paraît qu'il y a, il y a un marathon
exactement,
aussi à Pyongyang.
Marathon donc en 2014 qui avait accueilli 300 amateurs étrangers. L'objectif affiché du régime, notamment sur le plan du tourisme, est d'accueillir à l'horizon 2020 2 millions de touristes annuellement. Aujourd'hui, ils en sont à peu près à 100 000. Donc c'est un objectif complètement farfelu, complètement démesuré. Mais c'est aujourd'hui une source de devises potentielle extrêmement importante pour le régime. Ces autres sources de devises qui auparavant étaient l'exportation d'armes, l'exportation de fausses monnaies, l'exportation de fausses médicaments, toutes ces sources sont taries. Le régime aujourd'hui doit trouver des financements extérieurs. Avec les sanctions, c'est extrêmement compliqué. Le tourisme en est une. La création de zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs internationaux en est une autre. Et une troisième, qui aujourd'hui suscite l'intérêt de nombreux pays, c'est l'envoi à l'étranger de travailleurs coréens.
Ah oui, on a vu ça en Cambodge. J'ai lu quelque part que ce sont des travailleurs nord-coréens qui reproduisent en maquette les temples d'Angkor.
Que ce soit au Cambodge, que ce soit surtout en Chine, il y en a des dizaines de milliers, en Russie, des dizaines de milliers, mais aussi dans les pays du Moyen-Orient, des travailleurs nord-coréens qui s'y rendent, qui sont dans des camps d'une certaine façon de travail complètement surveillé, et leur salaire, et 90% de leur salaire, est ponctionné par le régime. C'est à peu près le même fonctionnement que le complexe industriel de Kaesong, le complexe intercoréen qui a été fermé il y a quelques semaines, où les Nord-Coréens allaient y travailler et leur salaire était ponctionné par le régime.
Jusqu'à quel point est-ce que le régime, s'appuyant sur l'exemple chinois, aura bientôt pour préoccupation le contrôle de cette classe moyenne balbutiante qui commence à entreprendre sur le plan économique.
Au point de vue intérieur, le contrôle de la population est l'alpha et l'oméga de la politique nord-coréenne. C'est-à-dire que la grande crainte des dirigeants est bien évidemment d'avoir un soulèvement. Aujourd'hui, les campagnes ne posent pas vraiment de problème puisque les agriculteurs, les paysans ne peuvent pas se déplacer au sein du pays. Aujourd'hui, une des problématiques peut être le développement d'une classe moyenne à Pyongyang. Et c'est en fait tout le paradoxe et le dilemme auquel fait face aujourd'hui Kim Jong-un. Comment s'assurer de la fidélité de cette classe moyenne en améliorant son bien-être, tout en s'assurant que cette classe moyenne ne se retourne pas contre lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les tentatives de libéralisation très partielle se font de façon très lente, prennent beaucoup de temps, et que le modèle chinois aujourd'hui n'est pas du tout le modèle appliqué en Corée du Nord.
Valérie Niquet, je rappelle que vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci d'être avec nous en duplex depuis Tokyo, au Japon. Expliquez-nous l'attitude très ambiguë de Pékin vis-à-vis du régime nord-coréen, puisque d'une certaine manière, il y a toujours de l'aide alimentaire chinoise qui parvient aux populations en Corée du Nord, mais Pékin a participé au dernier vote de l'ONU pour durcir les sanctions, a même, je crois, gelé un certain nombre de comptes bancaires d'une élite nord-coréenne qui réussirait à sortir de l'argent. Donc, quel est le président Xi n'est jamais allé à Pyongyang, d'après ce que je comprends, ce qui est une forme de, une manière d'indiquer aussi une sorte de distance. Comment expliquez-vous la politique de Pékin vis-à-vis de Pyongyang?
Alors Xi Jinping, effectivement, non seulement n'est jamais allé à Pyongyang, mais surtout il n'a jamais reçu Kim Jong-un, parce que évidemment il faut bien voir le rapport de puissance dans ce sens. Ça aurait été aux dirigeants nord-coréens d'être reçus à Pékin, ce qui n'a pas été le cas. Et les relations entre la Chine et la Corée du Nord ne sont évidemment pas bonnes. Les Chinois sont extrêmement agacés et très ennuyés par ce qui se passe en Corée du Nord. Le problème, c'est que je pense que les Chinois ne sont pas ennuyés pour les mêmes raisons que peuvent l'être les Japonais, les Coréens du Sud, les États-Unis ou le reste des autres puissances dans le monde. Pour Pékin, ce qui est le plus embêtant avec cette affaire nord-coréenne, c'est d'abord la démonstration d'un manque de respect à l'égard du grand frère chinois, et deux, surtout, c'est que cette stratégie de provocation de la Corée du Nord a abouti ou aboutit à un réancrage, en tout cas au maintien d'une forte présence américaine dans la région, qui est perçue comme le principal facteur de stabilisation militaire, qui a abouti également à un rapprochement, y compris en termes de coopération, échange d'informations, qui n'avait pas lieu auparavant entre la Corée du Sud et le Japon. Et donc, la Corée du Nord est une sorte d'abcès de fixation qui gêne Pékin dans sa stratégie plus globale en Asie, qui aimerait au contraire voir les États-Unis s'éloigner un peu plus d'une région où les Chinois voudraient être leaders. Et les Chinois sont extrêmement ambigus parce que effectivement, d'un côté, ils ont voté les sanctions plus sévères qui ont été adoptées cette fois-ci, mais ces sanctions ne sont pas encore parfaites. Elles laissent passer notamment à la fois la Chine peut continuer d'importer pas tous les minéraux, mais le charbon par exemple, qui est une des grosses exportations de la Corée du Nord, et elle peut également continuer à fournir de l'énergie à la Corée du Nord à condition que ça ne soit pas utilisé soit pour les avions militaires, soit pour le programme nucléaire, ce qui est évidemment difficile à vérifier. Et ce qu'il faut noter, ça n'est pas tellement l'aide chinoise à la Corée du Nord qui n'est pas si importante. C'est surtout que depuis 2006, le premier essai nucléaire, la Chine a considérablement renforcé son poids économique en Corée du Nord. C'est le premier partenaire de la Corée du Nord en termes d'échanges commerciaux. Donc tous ces échanges contribuent à soutenir le régime, à le nourrir, à apporter des revenus. Récemment encore, depuis le mois de janvier, donc depuis les derniers essais, je lisais tout à l'heure que les exportations chinoises et les importations en provenance de Corée du Nord ont augmenté de plus de presque 14%. Donc le commerce entre la Corée du Nord et la Chine, pour le moment, n'est pas du tout en phase de réduction. Mmh. La Chine ne veut pas non plus voir s'effondrer ce régime nord-coréen. On parle beaucoup du risque à Pékin, utiliser l'argument des réfugiés nord-coréens qui se précipiteraient en Chine en cas d'effondrement. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils se précipiteraient en Chine et pas vers le sud. Mais la Chine ne veut surtout pas voir s'effondrer un régime qui aboutirait éventuellement à une réunification de la péninsule coréenne, une péninsule coréenne qui ne serait pas forcément très favorable à Pékin et surtout qui pourrait amener une présence américaine renforcée jusqu'aux frontières de la Chine. Donc tous ces éléments font que Pékin à la fois veut apparaître comme une puissance responsable sur la scène internationale et vote les sanctions, n'a pas exactement les mêmes intérêts que nous et ne souhaite pas non plus aller jusqu'à ce qui pourrait véritablement aboutir à l'effondrement du régime nord-coréen.
Bruno Tertrais, on en vient à se demander comment la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre et jusqu'à un certain point les Européens qui ont été très impliqués dans la négociation avec l'Iran pour arriver à geler le programme nucléaire iranien, comment est-ce que ces grandes puissances ou ces ensembles de puissances peuvent réinitialiser avec Pyongyang une forme de dialogue, parce qu'il y a eu un dialogue pendant sous le père de l'actuel dirigeant pour tenter de contrôler en tout cas ce programme nucléaire, et là on a l'impression que ce n'est plus le cas du tout. Il n'y a plus de jeu diplomatique, disons, avec le nucléaire.
Il n'y a plus de processus formel de négociation avec la Corée du Nord sur le programme nucléaire, mais je crois que même si tous les acteurs décidaient qu'il était temps de relancer ce processus, ça ne servirait à rien. parce qu'on est dans une situation extrêmement différente. Vous avez mentionné l'exemple, entre guillemets, de l'Iran. Là, je voyais que Madame Mogherini, la ministre des Affaires étrangères européenne, avait dit, après le dernier essai nucléaire nord-coréen, il faudrait relancer les pourparlers et faire comme pour l'Iran. C'est une absurdité. D'abord parce que la Corée du Nord est un point de son développement nucléaire qui n'a rien à voir avec ce qu'était l'Iran il y a un an et demi.
C'est un état nucléaire de fait.
C'est un état nucléaire de fait. Et il l'est déjà depuis longtemps. Hein. Vous avez rappelé que son premier essai nucléaire, c'était quand même il y a 10 ans. Et par ailleurs, c'est un pays pour lequel le nucléaire militaire est un élément consubstantiel à son identité politique. Ça n'est pas par hasard, ce n'est pas par pur artifice que ce statut nucléaire est inscrit dans la Constitution. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de limiter d'abord les exportations nord-coréennes. Les exportations, Antoine Bourdage l'a rappelé, la Corée du Nord n'a aucun tabou. Elle exporte tout, depuis la fausse monnaie, des faux médicaments, etc. Donc exporter des armes nucléaires. Exporter des armes nucléaires, pourquoi pas. Elle avait déjà vendu un réacteur nucléaire destiné très probablement à la fabrication d'armes nucléaires à la Syrie. Hein, que serait aujourd'hui la guerre en Syrie avec un arsenal nucléaire au milieu? Bon, la première priorité, surtout pour nous, Européens, c'est d'éviter ces exportations. Donc on contient, on contrôle, on surveille. Hein. Les sanctions, elles ont essentiellement pour but de ralentir ce programme qui, sans sanctions, serait allé encore plus vite. Le temps, c'est un bien précieux en diplomatie. Hein. Quand on gagne 10 ans quelque part, c'est déjà pas mal. Et ensuite, de limiter les exportations, donc de limiter la croissance rapide du programme nord-coréen et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Alors ce régime, il peut très bien durer encore 50 ans, 100 ans, que de durer 5 ou 10 mois. Enfin, je ne crois pas beaucoup à la deuxième hypothèse, mais vous savez, l'histoire nous enseigne que parier sur la longévité dans un sens ou un autre de ce type de régime est très risqué, quel que soit le sens du pari. Ce qu'il ne faut pas faire en tout cas, c'est faire ce qu'avaient fait les négociateurs américains en 1994, qui s'étaient dit, très bien, nous, on retire nos armes nucléaires de Corée du Sud, on va négocier avec la Corée du Nord pour qu'elle abandonne son programme nucléaire. Bah, non seulement ça n'a pas donné les résultats escomptés, mais le programme a accéléré. Et l'erreur des négociateurs américains, ça avait été à l'époque de se dire, de toute façon, on signe un accord avec eux pour 10 ans. Évidemment, en 2004, la Corée du Nord n'existera plus.
Mais en fait, la stratégie américaine consiste à densifier la dissuasion nucléaire avec la Corée du Nord, puisqu'il y a ce programme de bouclier antimissile la Corée du Sud et le Japon pourraient être partenaires.
Ils sont déjà partenaires. Et ils le sont. La première priorité, c'est que les grands alliés des États-Unis, mais aussi d'une grande partie de la communauté occidentale, le Japon et la Corée du Sud, soient protégés. Parce qu'ils se sentent, on l'a dit et redit, ils se sentent effectivement menacés. Les contentieux ne se limitent pas d'ailleurs à la menace militaire. Il y a aussi toute l'affaire des enlèvements de citoyens japonais qui est extrêmement important dans la mémoire sud-coréenne.
Alors de quoi s'agit-il ? Des enlèvements récents ?
Non, ça date d'il y a assez longtemps, mais il y a des gens qui ont été enlevés par les Nord-Coréens, soit pour en faire les espions, soit parce que c'était des femmes dont le corps allait être utilisé, soit pour d'autres raisons. Vous savez, la Corée du Nord n'a aucun tabou et peut faire son imagination et malheureusement sans limite. Tout ça pour dire que pour le Japon, c'est une menace effectivement multiforme. Alors, il faut rendre justice à l'administration Obama. Elle a beaucoup fait pour que les Japonais et les Coréens du Sud se sentent mieux protégés à la fois par le bouclier antimissile dont ils sont partenaires, surtout les Japonais, et aussi par la dissuasion. Les Américains, par exemple, survolent régulièrement la péninsule coréenne avec des bombardiers stratégiques. Donc c'est d'abord ce qu'on appelle la réassurance de ces pays qui compte, et ça marche pas trop mal. Mais vous voyez, on est dans la limitation, dans le confinement. Il n'y a plus d'efforts de démantèlement, visant au démantèlement du programme nucléaire et balistique nord-coréen.
Et donc on en revient aux arguments que développait à l'instant Valérie Niquet, parce qu'on se dit que c'est Pékin qui, pour toutes sortes de raisons, à la fois économiques, idéologiques jusqu'à un certain point, les rapports de force entre le grand frère et les pays de moindre importance, c'est Pékin qui a éventuellement la main
Si un pays a la clé, c'est Pékin, mais ça ne veut pas dire qu'il suffirait à Pékin d'appuyer sur un bouton pour que le régime nord-coréen se transforme en une espèce de pays, une espèce de nouvelle Suisse pacifique. Hein. Soit dit en passant, ce que vous disiez sur le parcours du jeune dirigeant en dit long sur ce qu'on appelle les écoles de finition en Suisse, hein, parce que en voilà un qui a été fini de manière assez particulière. Mais je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui dire que la Chine ne peut rien faire. On ne peut pas entendre le discours de certains dirigeants chinois qui dit nous ne pouvons rien faire. La Chine peut agir sur certains leviers et elle peut, sans que le régime ne s'effondre, elle peut faire quelque chose. Ça change, mais en même temps, si vous voulez, ça fait maintenant 15 ans que j'entends dire la Chine est agacée, la Chine est très agacée, la Chine est vraiment très agacée. Je crois qu'il y a encore, du chemin. En tout cas, c'est le seul pays qui peut vraiment faire quelque chose de significatif, même si, encore une fois, ce n'est pas un pays qui pourrait du jour au lendemain. Elle est, pour donner une comparaison très brève, elle est un petit peu comme elle. La Corée du Nord est un petit peu à la Chine, ce que l'Albanie est à l'Union soviétique. Un petit pays qui se veut vivre en autarcie, dans le culte de la personnalité, et dont les liens idéologiques, politiques et commerciaux sont assez distants, encore que la comparaison s'arrête là, comme on l'a rappelé tout à l'heure.
Il n'y avait pas l'arme nucléaire. Et en Albanie, il y avait des clous sur les poteaux qui délimitaient les champs, dirigés vers le ciel, au cas où des parachutistes auraient envisagé.
Je les ai vus moi-même après voilà. La chute environ. Mais il y a quand même un commerce entre la Chine et la Corée du Nord, bilatéral, qui fait que la Chine a des leviers d'action.
Antoine Bondaz, vous étiez le seul parmi nous, jusqu'à présent, à avoir été à Pyongyang. Sérieusement, quel serait, selon vous, le meilleur levier pour faire évoluer le régime dans un sens, disons, compatible avec des règles de bienséance internationale?
C'est véritablement la question à 1000 euros.
C'est pas le genre de France Culture.
Je sais bien. Oui. Les Sud-Coréens ont tenté deux politiques complètement opposées, tant la politique d'engagement total et radical au début des années 2000 que la politique qu'on a pu appeler de confrontation à la fin des années 2010 sous la présidence de Lee Myung-bak. Ces deux politiques ont échoué. Et la Corée du Sud est arrivée à la conclusion que la coopération avec la Corée du Nord n'était pas utile et qu'il pouvait donc fermer le complexe industriel de Kaesong. Le choix aujourd'hui de la communauté internationale est soit celui des sanctions, et de l'engagement, soit celui de l'engagement. Celui de l'engagement apparaît comme complètement impossible, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas cesser de sanctionner un pays qui continue d'aller à l'encontre de la loi internationale ou des résolutions des Nations Unies. Ce qui est possible, peut-être, c'est d'engager la Corée du Nord de certaines façons. Beaucoup d'experts soviétiques et russes, aujourd'hui, rappellent cet exemple. Quatre soviétiques se seraient rendus à Washington dans les années 70 pour faire leur master. C'était les premiers étudiants soviétiques. Et lors de la perestroïka, deux d'entre eux avaient des rôles très importants auprès de Gorbatchev. Cela pour dire que selon certaines personnes, c'est justement en engageant l'élite nord-coréenne, certains étudiants, en multipliant les échanges notamment sur le plan culturel, qui, en l'occurrence, n'ont aucun impact direct sur le programme nucléaire et balistique, qu'à long terme, il serait peut-être possible d'influencer le régime. Ce qui est très sûr, c'est qu'à court terme, nous faisons face à une impasse. La Corée du Nord s'est volontairement mise dans une impasse stratégique sur le plan nucléaire. La Corée du Nord ne veut pas changer, tout simplement, puisque les dirigeants ont conscience du risque d'effondrement en cas de changement trop brutal, et que la question se pose forcément sur plusieurs années, sur une évolution progressive, même si un effondrement dans l'absolu n'est jamais un scénario à complètement exclure.
Eh bien, merci à vous quatre, à vous cinq, pour avoir exploré pendant une heure ce royaume inconnu et obscur. Merci donc à vous, Bruno Tertrais, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez publié début mai Vous allez publier début mai chez Odile Jacob avec Jean Guinel, Le président et la bombe. Alors ce n'est pas le nord-coréen, voilà. Il s'agit plutôt du français. Merci à vous Antoine Bondaz, docteur associé à Sciences Po, coordinateur du programme Corée à l'Asie Center. Vous avez contribué à un ouvrage collectif intitulé « La guerre de Corée et ses enjeux stratégiques de 1950 à nos jours » à l'Armatan. Merci à Valérie Niquet qui était avec nous de Tokyo, à Pierre Rigoulot qui a publié « Corée du Nord est un voyou » et puis je signale aussi le livre de Philippe Ponce qui vient de paraître chez Gallimard sur la Corée du Nord, un état guérilla. À la réalisation ce matin, Véronique Villa, à la technique Élise Leu, à la préparation comme à chaque fois Meryl Moneghetti et comme chaque samedi, je laisse la place et le micro à Dominique Rousset pour l'économie en question. Très bon week-end.